j'ai réussi à rentrer des herbes, du persil par exemple notamment, dans le courrier. Parce que mon fils me faisait un petit dessin, puis sa mère scotchait à côté du dessin une herbe. Alors, pas un bouquet, hein, mais une herbe. Et donc, du coup, ça passait un peu que j'étais pas un des plus dangereux, tout ça.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. Récemment sur Twitter, il y a un compte qui nous a interpellés par sa créativité et son ingéniosité. C'est celui d'un prisonnier qui cuisine avec les moyens du bord, avec un réchaud et les ingrédients qu'il peut cantiner, autrement dit acheter dans le magasin de la prison, qui s'approvisionne par correspondance, avec l'argent qu'il gagne s'il travaille. Et donc cet internaute, dont le compte n'existe plus aujourd'hui, eh bien il a posté des photos, notamment d'un fraisier qu'il a élaboré dans sa cellule. La plupart du temps, quand on pense au fait de manger, on réfléchit aux endroits dans lesquels on aime aller, aux ingrédients qu'on choisit de cuisiner, aux méthodes de cuisson qu'on apprécie. Mais donc, il existe dans la société des lieux dans lesquels on perd cette liberté. Et la prison, c'est précisément ce genre d'endroit. Parce que manger, ce n'est pas toujours être en mesure de choisir quoi, comment et où. Il y a d'ailleurs un épisode qu'on a beaucoup aimé faire avec Bouffon, c'est « Pourquoi on mange aussi mal dans les hôpitaux français ?» Et c'est l'épisode 62, si vous voulez l'écouter ou le réécouter. Avec Bouffon, on s'intéresse aussi à nos modes d'alimentation dans la société, dans différentes institutions, contextes, établissements donnés, ces lieux dans lesquels la nourriture est parfois un impensé. On a voulu cette fois donc interroger la place de la nourriture en prison. Alors on s'est demandé, que veut dire cuisiner lorsqu'on est incarcéré ? Quelle valeur cette activité prend-elle dans le quotidien d'un prisonnier ? Améliorer la gamelle servie en prison, c'est aussi un vaste enjeu de lutte contre le gaspillage alimentaire. Parce que produire 3 repas par jour pour des milliers de prisonniers, avec des aliments souvent en boîte et surgelés, et un budget très restreint, eh bien ça fait partie des contraintes. On dit que 60% de la nourriture pénitentiaire finit à la poubelle en France. Alors nombreux sont les prisonniers à préférer se cuisiner quelque chose par eux-mêmes dans leur cellule. Mais dans ces cas-là, le matériel est rudimentaire. Une plaque électrique de 20 cm de diamètre, qui en général ne chauffe pas plus de 250 watts, une casserole, un petit couteau à bourron. Dans cet épisode, vous entendrez en deuxième partie la chercheuse belge en criminologie, Anne-Sophie Vanouche. Avec elle, nous parlerons de dignité humaine, des stratégies de prisonniers pour s'échanger de la bouffe, de punition alimentaire, tout ça avec une perspective internationale, puisque le travail d'Anne-Sophie Vanouche est de comparer de nombreux systèmes carcéraux entre eux. Mais avant ça, je me suis entretenue avec Philippe Leclerc, un ancien détenu à la prison de la Santé à Paris dans le 14e, il y a aujourd'hui plus de 20 ans. À l'époque, Philippe Leclerc avait été condamné pour avoir arnaqué des banques. Aujourd'hui sorti de prison, il continue, je cite, « de braquer des banques, mais avec un stylo », puisqu'avec son association qui s'appelle Cosmagora, il intente désormais des procès aux banques qui ne respecteraient pas le code de la consommation. En somme, Philippe Leclerc aide les consommateurs et emprunteurs à récupérer l'argent qui leur est dû dans certaines opérations de crédit abusives. Et ce qui nous intéresse plus précisément avec Philippe Leclerc, c'est qu'il a sorti un livre de recettes qui s'appelle « Cuisine entre quatre murs, excursion gastronomique », publié en 2000 aux éditions Par Défaut. On y trouve des astuces pour faire un poulet maffé, une sauce au thon, un bœuf à la bière, un succès d'année de chantilly, une compote de pommes. Plein de conseils pratiques pour mitonner des petits plats avec ce qu'il pouvait cantiner et aussi faire rentrer discrètement par le courrier. Mais au-delà des recettes, le but de l'ouvrage, selon Philippe, c'est de créer une passerelle entre l'intérieur et l'extérieur. J'avais plein de questions à poser à Philippe Leclerc, alors il s'est installé dans son fauteuil et il a allumé clope sur clope pour me répondre.
À la promenade, j'avais un voisin de coursive qui me disait, dis donc, ça sentait bon hier, qu'est-ce que t'as fait dans ta cellule, qu'est-ce que t'as bricolé, parce qu'on cuisine beaucoup en prison, hein, enfin, on cuisinait beaucoup. Et puis, du coup, je notais la recette sur un bout de papier, puis je lui donnais, quoi.
Ah oui.
Au bout d'un moment, j'ai eu un certain nombre de bouts de papier, je me suis dit, quand même, c'est intéressant. Là-dessus, j'ai rencontré toujours en prison, parce qu'on rencontre des tas de gens en prison, j'ai rencontré un éditeur qui m'a dit, tu sais que ça pourrait faire un bouquin, ça. Ah bon? J'ai réfléchi à la chose. Et puis, ce qui m'a décidé, c'est que je pense toujours que au travers de la nourriture, de la façon de la préparer, de la façon de accommoder les restes, en quelque sorte. Eh bien, surtout si je le faisais sur un ton léger, j'allais jeter un pont entre l'intérieur et l'extérieur, entre le monde du dedans et le monde du dehors. Et tout ça a fait que, bah, du coup, j'ai commis ce bouquin.
Alors, moi, ce qui m'a beaucoup amusé à la lecture de votre bouquin et aussi de votre blog sur lequel on retrouve le contenu de votre bouquin, c'est que vous revendiquez un anticléricalisme farouche qui vous a fait bouffer du curé tous les jours et de la viande le vendredi saint, vous écrivez.
Je suis un ancien séminariste. Alors, forcément, quand on en est sorti, on tourne forcément anticlérical, c'est évident.
Oui, vous faites un parallèle entre votre enfance et vos années de prison. Donc, vous écrivez que plus jeune, vous avez commencé votre vie de reclus comme pensionnaire au petit séminaire de Meaux, à l'école donc, et qu'ensuite, vous avez retrouvé des années plus tard à la santé les mêmes conditions de vie. Donc, je cite la promiscuité, les repas immangeables, le règlement absurde et omniprésent. Et vous dites, non sans humour, qu'au moins à la prison de la santé, on ne vous obligeait pas à aller à la messe. Est-ce que du coup les repas immangeables, c'est ça qui vous a poussé à vous préparer votre propre popote ?
Bah oui, ça, mais j'étais pas le seul. On avait tous ceux qui avaient les moyens, parce qu'il faut avoir les moyens pour cantiner en prison, faut être assisté, faut avoir des mandats qui tombent. On achetait des compléments indispensables et nécessaires. Et puis après, chacun se débrouillait. Je veux dire, chacun faisait en fonction de ses possibilités, de ses moyens, de son envie, etc. Mais c'est assez effarant d'ailleurs quand on pense à toute cette industrie qui se crée dans les cellules après 17h30. C'est-à-dire 17h30, c'est la fermeture véritable. Et puis après, la bouffe arrive vers 18h. Et c'est une fourmilière gastronomique, quoi.
Et avec quel ustensile on cuisine alors en cellule ?
On cuisine avec ce qu'on peut cantiner, d'une part, et puisque sa propre industrie peut t'amener, c'est-à-dire que moi j'avais fabriqué une casserole pour faire mes sauces, par exemple, avec une boîte de conserve, un lacet pour isoler le manche, etc. Mais on pouvait cantiner une casserole, on pouvait cantiner des cuillères, des fourchettes, pas de couteau par contre. Ça, on se débrouillait, voilà, et puis on récupère tout ce qu'on peut récupérer dans une prison. C'est effarant. Vous posez un truc dans un coin, même planqué. Je sais pas. Un jour, j'ai trouvé dans la cour de promenade une tige de fer, et je sais pas, une tige de fer blanc, un truc de 30 cm, tout bête. Et je me suis dit que ça pouvait servir à quelque chose. Bon. Mais impossible de la remonter parce que ce jour-là, il y avait une fouille un peu généralisée, tout ça. Je plante la tige dans un angle mort de l'escalier, derrière un truc. Enfin, fallait vraiment savoir que c'était là, quoi. Quand je suis redescendu à la promenade suivante, il n'y était plus.
Ah oui.
et on garde les papiers d'emballage parce que, enfin, s'ils sont en aluminium, parce que ça peut servir. On garde les pots de ricoré en plastique parce que ça peut servir. Enfin, on garde tout parce que ça peut servir.
Et votre casserole bidouillée donc à partir d'une boîte de conserve, est-ce que ça c'est votre création qui s'est avérée la plus utile pour cuisiner ?
Elle a beaucoup servi. Elle a beaucoup servi parce que j'ai fait des caramels avec, j'ai fait des sauces. Et puis je l'aimais bien parce que elle était jolie. J'avais récupéré une boîte 4 quarts. J'avais coupé en deux. Avec la partie supérieure repliée sur elle-même, j'avais fait le manche. La partie inférieure faisait la casserole. Mais j'avais également récupéré des tubes de harissa, je me souviens, parce que l'intérieur était cuivré. J'ai découpé en lanières et ma casserole avait donc un bord cuivré et un couvercle également avec un bord cuivré. Tout ça, c'est très joli.
Au quotidien, on a quand même envie d'avoir du bon matériel, oui.
On a envie d'avoir du bon matériel. Et puis même l'esthétique en prison, on est tellement privé d'esthétique parce que tout est moche. Je veux dire, la prison, c'est laid, c'est un amas de pierre qui est laid. Les gardiens sont laids, les co-détenus sont laids, on est laid soi-même. Tout est laid, les moindres choses sont de la prison, elles appartiennent à la prison, tout ça. On a envie de beau, d'esthétique, de quelque chose de... Voilà, j'ai été amené, parce que je m'occupais de la chose culinaire, à façonner un outil comme ça qui était beau. Voilà.
Et donc, grâce à cet outil, vous avez pu cuisiner beaucoup de plats. Je regarde donc dans la table des matières qui liste vos recettes. Un poulet maffé, une sauce au thon, un bœuf à la bière. Je lis aussi succès d'année de chantilly, la compote de pommes aussi. C'était quoi vos recettes préférées dans tout ça?
Franchement, j'avais pas de recette préférée. Ce qui est important, ce qui était important, et ce qui est toujours important, parce que je continue à cuisiner, bien entendu, c'est le moment où on réalise. Le moment où on fait, parce que la cuisine est une forme d'alchimie quand même. C'est-à-dire qu'on prend des éléments banaux, et puis on en fait quelque chose d'autre qui tire de ces éléments, mais qui devient quand même autre chose.
Il y a une transformation qui est faite.
Il y a une sublimation, osons le mot, et pour garder le vocabulaire, c'est une sublimation parce que il n'y a pas que les ingrédients dans le plat. Il y a l'humeur qu'on a, il y a les personnes pour lesquelles on cuisine, il y a tout ça, c'est important ça dans un plat.
Vous avez cuisiné pour des co-détenus ?
Pour des co-détenus, non, on a fait quelques échanges de trucs, je t'échange un bol de soupe contre un dessert, enfin, un genre de conneries. Mais non, mais par contre, j'ai cuisiné en dehors de la prison, j'ai cuisiné dans le cadre de restaurants, et je cuisine aussi pour les amis, et donc la cuisine qui a une part importante dans ma vie. Parce que j'ai toujours été peu ou prou proche des fourneaux.
Parce que oui, vous écrivez « La cuisine est poésie, la cuisine est évasion ». Est-ce que donc ce goût pour la cuisine, il existait déjà avant votre incarcération ?
Évidemment. J'ai toujours vécu près des fourneaux, enfin toujours, non, mais à partir du moment où j'ai été indépendant, et je l'ai été assez jeune, j'ai toujours été près des fourneaux. Donc, effectivement, à la santé, le fait de cuisiner, c'était une évasion, vraiment. Parce que on faisait quelque chose qui n'était pas de la prison, même si tous les ingrédients qu'on mettait dedans venaient de la prison. Ce qu'on obtenait, c'était quelque chose d'autre. Et ça, c'est important.
Et j'imagine qu'il fallait faire aussi preuve de beaucoup d'imagination, donc à partir de ce que vous pouviez cantiner, pouvoir ensuite imaginer comment le transformer en autre chose, quelque chose qui connote autre chose justement que la prison dans laquelle on se trouve à ce moment-là.
Besoin d'imagination, besoin d'organisation aussi, parce que il fallait, comme on fait sur le marché quand on cuisine, il fallait savoir ce qu'on allait tirer des plats qu'on nous donnait, qu'on pouvait garder pour le lendemain ou deux jours après, le tout sans frigo. Je rappelle qu'on n'avait pas de frigo à l'époque. Et donc, fallait garder à l'huile tel ingrédient parce qu'il pouvait être intéressant dans deux jours pour un truc auquel on avait pensé. Et puis, effectivement, il fallait savoir pallier l'absence de, notamment de condiments, puisqu'on n'avait rien. On n'avait pas de poivre, notamment. On n'avait pas d'herbe, on n'avait pas tout ça. Je me souviens d'avoir sauvé des feuilles de laurier d'un rata absolument ignoble, mais où il y avait des feuilles de laurier pour les mettre à l'huile, en disant comme ça j'aurais au moins du laurier. Quoi. C'est un truc de fou. Voilà. Et puis il faut faire. Bon, j'ai toujours beaucoup lu aussi. Et ça m'a servi. J'étais tombé chez ma grand-mère quand j'étais petit, sur des vieilles piles de l'almanach Vermont qui dataient de la Grande Guerre et dans lesquelles il y avait des conseils pour survivre en cas de disette. Comment remplacer tel ingrédient, etc. Et il y a des choses qui me sont revenues en mémoire et donc du coup j'ai pu faire certains plans en disant « Mais attends, si je prends ce truc-là à la place, ça va faire presque pareil, donc je devrais arriver à me débrouiller, tout ça. » Donc voilà, c'est un mélange de mémoire, d'imagination et d'envie.
Et donc oui, vous avez parlé de conserver des choses à l'huile. Donc pour ça, il fallait avoir des contenants. Vous arriviez à en trouver. Donc les fameuses boîtes de chicorée, ça pouvait servir à ça, j'imagine.
Une boîte de chicorée, c'est une boîte en plastique, modèle spécial collectivité. Ça peut servir à ça. On pouvait récupérer des bocaux en verre. Alors c'était un peu controversé parce qu'on n'avait pas vraiment le droit des bocaux en verre, mais enfin on arrivait quand même à en trouver. Et j'avais même fait de la confiture, je me souviens, j'avais fait de la confiture, c'est pas dans le bouquin, j'avais fait de la confiture et j'avais 3-4 pots de confiture sur l'étagère de ma cellule parce que c'était sympa, quoi.
Ah oui, en plus, c'est le genre de préparation qui dure un peu dans le temps, donc on doit être ravi de pouvoir revenir au petit-déj.
Bien sûr.
Et est-ce que vous avez le souvenir d'un plat en particulier qui vous a demandé quand même beaucoup de temps de préparation et duquel vous avez retiré beaucoup de fierté?
Alors, la fierté, oui, c'est les fameuses orangettes. Parce que dit comme ça, ça paraît, bon, on fait des orangettes, oui, d'accord, mais bon, on les fait dans une cellule dans laquelle on n'a rien pour chauffer. Je rappelle que je cuisinais avec une chauffe à huile. Bon. Et j'avais aussi un thermoplongeur. Et donc, je me suis fait chier, il n'y a pas d'autre mot, à récupérer des oranges, les laver, tout ça, les faire tremper, récupérer les zestes, les mettre en lamelles, les confire au sucre, les faire sécher sur une petite lait, les rouler dans du sucre cristal et les mettre dans une petite boîte. Ça m'a pris des jours.
J'imagine.
Et j'étais très content parce que il y avait une brave dame qui venait nous donner des cours de littérature. Alors, ok, je m'étais inscrit parce qu'on s'inscrit tous à des choses parce que ça permet de sortir de la cellule. Et puis, une dame très comme il faut, lectrice du Figaro, avec le carré Hermès et tout, enfin, une dame, quoi, voilà, qui était d'ailleurs la petite fille du fondateur de la guilde des rôdisseurs, c'est vous dire s'il était également branché cuisine. Et je me souviens que je suis descendu dans la pièce où il y avait lieu cette activité, et puis là, j'ai dit, voilà, c'était à propos, on était proche de Noël, voilà, c'est Noël, tout ça, et donc je vous propose, voilà, prenez une orangette, tous. Et il y a eu un ravissement généralisé parce que, encore une fois, c'était pas quelque chose de la prison.
Oui.
Le sucre était de la prison, les oranges étaient de la prison, le travail était de la prison. Mais on obtenait quelque chose qui avait une autre saveur. Et ça, ça a été un grand moment. Donc c'est certainement le plat qui m'a donné le plus de boulot, parce que bon, le reste c'était du mijotage, hein, et qui m'a rapporté le plus d'émotions, je dirais. Qui cuisinait pas vraiment.
Vous faites preuve d'une grande humilité, ou en tout cas vous en donnez les apparences dans ce livre. Vous écrivez à propos de ce livre de recettes, de la lecture de cet opuscule, on sort atterré et appauvri, atterré qu'il se soit trouvé un éditeur pour imprimer ce fatras insipide. Appauvri parce qu'en tournant enfin la dernière page, on éprouve cette curieuse sensation d'être moins qu'avant. Comme si, émergeant d'un néant, on avait perdu quelque chose. Et donc, je me demandais à la lecture de Céline si certaines de vos recettes, selon vous, sont tout de même dignes d'être reproduites, même hors du contexte contraignant qu'est la prison.
Mais je sais qu'il y a des gens qui l'ont fait. Peu de temps après la sortie du bouquin, j'ai eu des échanges avec des gens qui m'ont dit « Tiens, on a fait une soirée de taulard ». On a fait ta cuisine avec les mêmes moyens, etc. Enfin bon, voilà. Mais je pense que cette autocritique que j'ai pu écrire, elle participe davantage d'un sentiment, effectivement, de vide, parce que tout compte fait, ce bouquin-là, il est anecdotique. C'est pas intéressant. C'est pas plus intéressant que la télé-réalité, en gros. Et ce que vous venez de lire, vous l'appliquez à n'importe quelle émission de télé-réalité, ça marche, hein, en fait. Donc, mais en même temps, il y a la faiblesse de celui qui écrit, de celui qui crée. Se dire, bah oui, tout compte fait. Puis bon, conforté par la critique. Ils disent, tout compte fait, ah ouais, c'est. Si quand même les gens trouvent ça sympa, c'est bien, parce que c'est bien aussi que les gens trouvent ça sympa. J'ai eu la chance de rencontrer mes lecteurs dans plusieurs salons de livres. C'est génial! Alors quand on est un peu lucide et à froid, on se dit « putain, c'est vraiment de la merde, ça mérite pas tout ça ». Et puis après, on se dit « ouais, mais les gens qui l'ont lu, qui l'ont trouvé sympa, c'était très sympa de les rencontrer aussi ». Voilà. Et donc, et puis en même temps, je me dis que ce bouquin dont on parle encore, la preuve, plus de 20 ans après, il a peut-être réussi tout qu'on fait à jeter quelques ponts entre les deux mondes, entre l'intérieur et l'extérieur. Et parce que ce bouquin a une vie aussi. Je sais que maintenant, il est dans les bibliothèques de nombreuses prisons.
Et je me suis demandé à la lecture de ce livre, quels étaient les ingrédients qu'il était le plus facile de trouver à la cantine.
Alors ça, c'est intéressant. Je crois qu'en fait, ce qui était important à la cantine, c'était de mettre la main sur vraiment les choses, du sel, du sucre, de l'huile, du beurre, Voilà, c'est ça qui était intéressant dans la cantine. D'abord, ça faisait partie du, ça faisait partie de ce qu'on, de ce dont on avait vraiment besoin. Pour sublimer le reste, il fallait avoir de la matière grasse pour le cuire, il fallait avoir du sel, du sucre, parce pour donner du goût, pour, voilà, c'est ça qu'il fallait. Et puis le reste, ça tombait un peu comme ça, quoi. Voilà.
Et le reste, comment il fallait s'y prendre pour l'avoir ?
Alors, le reste, il y avait la cantine, d'une part. Il y avait les accommodements avec les détenus qui étaient chargés de la cuisine. Alors, disant, tu peux pas me dépanner, tu peux pas me tomber du truc, tu peux pas, voilà. Et puis, bah, de temps en temps, à la faveur d'une distribution de repas, il glissait une boîte de conserve ou un truc, des produits frais même parfois. Voilà. Et puis, il y avait des ruches de sioux. J'ai réussi à rentrer des herbes, du persil par exemple, notamment, dans le courrier. Parce que mon fils me faisait un petit dessin, puis sa mère scotchait à côté du dessin une herbe. Alors, pas un bouquet, hein, mais une herbe. Et donc, du coup, ça passait un peu j'étais pas un détenu dangereux, tout ça. Ça passait à la censure. Et donc, je me retrouvais avec un brin de persil ou un brin de, ou une feuille de laurier ou, voilà. Ou, bon. Et donc, à part le poivre, parce que ça, le poivre, c'était strictement interdit. Mais ça, ça passait très bien.
Pourquoi le poivre, c'était strictement interdit?
Alors, parce que sont interdits. Alors, les règlements des prisons sont pas unifiés. Ça dépend de chaque prison. Mais là, le poivre est interdit à la santé pour une raison simple. Parce qu'un jour, il y a un abruti qui a concassé du poivre, qui avait du poivre en grain, du poivre moulu, pardon, et qui s'en est servi pour agresser un surveillant.
Oui, d'accord, oui, j'imaginais bien que c'était ça la raison.
Mais par contre, on n'a jamais interdit de faire du caramel, alors que c'est aussi dangereux.
C'est aussi dangereux parce qu'on pourrait brûler quelqu'un avec.
Caramel, pour l'instant, personne n'a l'idée de balancer une casserole de caramel sur la tranche d'un maton.
Oui.
Il y avait des choses qui sont... On ne pouvait pas avoir d'œufs frais, on n'avait que des œufs durs. D'où mes recettes à base d'œufs durs, parce qu'on n'avait pas d'œufs frais. Alors, me demandez pas pourquoi, ça j'en sais absolument rien. Parce que, bah voilà, il y a un mec qui a déclaré un jour dans le règlement que les œufs frais étaient interdits. Bon, bah, les œufs durs, voilà.
Et est-ce que vous rêviez d'un ustensile en particulier pour cuisiner ? L'ustensile par excellence qu'il vous manquait pour cuisiner ?
L'ustensile qui me manquait, honnêtement, c'était un bon feu. Parce que c'était un réchaud.
Oui.
Parce que, en fait, j'avais deux possibilités. La possibilité illégale qui consistait à fabriquer une chauffe à huile et la possibilité légale qui consistait à acheter un réchaud méta. L'un comme l'autre a plein d'inconvénients. L'inconvénient majeur étant que ça ne chauffe pas.
Oui.
Je me souviens pour faire mon gâteau, pas pour cuire la pâte, parce que la pâte, elle était cuite, c'était fait avec de la mie de pain, du jaune d'œuf dur, du sucre. Enfin, c'était, voilà. Mais pour le faire dorer, quand même cuire un peu, il fallait la journée, quoi. Il y a une chauffe à huile, imaginez, et la mienne, c'était chauffe à huile professionnelle, je m'étais fabriqué moi-même, qui avait trois mèches, après c'est tout, et tout tralala, mais ça ne chauffe pas beaucoup, lui, là.
Oui.
Pour faire des patates sautées, il fallait 4 heures.
Vous pouvez peut-être nous parler de ça, du plat sur lequel vous vous êtes rué à la sortie. Est-ce qu'il y en a eu un, en particulier ? Un plat dont vous rêviez absolument ?
Eh bien, je vais peut-être vous surprendre, mais le premier plat que j'ai mangé, c'est tout simplement un McDo.
Oui.
Parce que pour moi, c'était un retour à la vie. Et donc, ce McDo, je l'ai mangé à la terrasse du McDonald's des Champs-Élysées, au milieu des gens qui passaient, au milieu des odeurs de voitures que je reniflais avec une certaine frénésie parce que j'en avais été privé pendant 3 ans. Et même le McDonald's représentait pour moi une part de liberté parce que c'était vraiment... un acte banal, je veux dire, aller bouffer un McDo, c'est un acte banal, mais là, c'était devenu un retour à la vie de tous les jours, quoi.
J'ai trouvé ça drôle que Philippe Leclerc se rue sur un McDo à sa sortie de prison. Je m'attendais à ce qu'il me réponde autre chose. Mais au fond, je comprends. Je comprends ce besoin d'embrasser pleinement un retour à la banalité. Après notre enregistrement, Philippe Leclerc a cité des proches qui parlaient du goût qu'on a pour les raviolis qu'on mange à même la boîte au milieu de la nuit quand on a faim et qu'on ouvre juste la porte du frigo pour être éclairé. Ces raviolis-là ne sont jamais les meilleurs du monde, mais c'est la singularité du moment qu'on vit qui les rend si savoureux. Et pour compléter cette immersion dans le passé d'un gastronome incarcéré il y a plus de 20 ans, on enchaîne avec une discussion avec la chercheuse Anne-Sophie Vanouche, avec qui on a parlé de la place de la nourriture dans la vie des prisonniers d'aujourd'hui. Pourquoi même les personnes en détention méritent-elles de manger correctement? Que veut justement dire manger correctement? Quels sont les aliments qui manquent le plus aux prisonniers? Anne-Sophie Vanouche a réalisé des entretiens et partage avec nous quelques-unes de ses conclusions. Dans son travail, la chercheuse belge en criminologie s'est penchée sur le fonctionnement des prisons en Belgique, aux Pays-Bas et au Danemark. Mais pour commencer, elle nous raconte comment la cuisine en prison est arrivée dans sa vie de chercheuse.
Of years ago, I did a PhD study on prison food, and the focus of the study was on the social-cultural root of food in a prison environment.
Il y a quelques années, j'ai commencé à étudier la nourriture en prison dans le cadre de mon doctorat, avec une attention particulière portée sur le rôle socio-culturel de la nourriture en milieu carcéral. Et ce qu'on a observé, c'est que dès qu'on interroge les détenus sur leur quotidien en prison, c'est tout de suite de la nourriture qu'ils parlent. Ça a été une surprise pour nous, parce qu'en tant que criminologue, on a souvent de grandes théories sur l'emprisonnement, alors qu'en fait, l'une des premières préoccupations des personnes incarcérées, c'est tout simplement la nourriture. Alors on a vraiment voulu regarder de plus près tout ça, et c'est comme ça qu'on a découvert les différents rôles que la nourriture peut jouer dans l'environnement carcéral. Ce rôle, c'est par exemple celui de pouvoir apporter une part de vous-même dans l'institution. Parce qu'on sait que quand les personnes entrent en prison, elles perdent une partie de leur identité parce qu'elles ne peuvent plus avoir toutes les choses qu'elles ont en dehors, comme leurs propres habits ou leur famille. En tant que prisonnier, vous êtes en quelque sorte dépouillé de plusieurs facettes de votre identité. À travers la nourriture, on peut retrouver une partie de ce qu'on était à l'extérieur, par exemple une identité culturelle ou religieuse.
People could still relate to a part of who they were on the outside. For example, their cultural identity, religious identity.
Est-ce que les détenus sont autorisés à ramener de la nourriture en prison ou à demander qu'on leur en envoie depuis l'extérieur?
That's an interesting question.
C'est une question intéressante. Aujourd'hui, en général, à cause des protocoles de sécurité, en Belgique du moins, les détenus ne sont pas autorisés à ramener de la nourriture en prison. Mais ils peuvent cantiner, c'est-à-dire acheter des produits en les commandant depuis la liste de la cantine. Ensuite, ces produits sont livrés en prison par un service extérieur. La liste est restreinte comparée à ce que vous pouvez acheter normalement à l'extérieur.
Quand on parle de droits des prisonniers, certaines personnes seraient tentées de penser que si vous allez en prison, c'est que vous méritez d'être puni, et donc qu'il n'y a pas vraiment besoin de réfléchir à la qualité de vos conditions de vie. Pourtant, tout le monde mérite des conditions d'existence dignes. Alors selon vous, dans quelle mesure des repas décents favorisent-ils la dignité humaine en prison, d'un point de vue de la philosophie politique par exemple ?
Yeah, well, I think it's very important first, indeed, the idea of punishment. It's important to know that the punishment is the loss of freedom.
Je pense qu'il est crucial de rappeler que la punition, c'est la privation de liberté. Une personne qui perd la liberté d'aller où elle veut, c'est ça, sa punition. C'est ce que nous avons collectivement décrété il y a des années. La prison, c'est ne plus avoir cette liberté. En revanche, les conditions de vie doivent être aussi proches que possible des conditions de vie décentes que chacun peut connaître à l'extérieur. C'est une question de respect et de dignité humaine. Et cela, les détenus doivent encore y avoir droit. Dans tout ça, la nourriture compte beaucoup puisqu'on mange 3 fois par jour. Alors si votre nourriture vous paraît indécente, ou si elle n'est pas bonne ou pas propre, vous allez rapidement commencer à vous sentir humilié. Une nourriture décente, c'est un pilier dans la vie carcérale. Au cours de mes entretiens, beaucoup de personnes m'ont indiqué que lorsque la nourriture servie n'est pas bonne, elles ressentent de la colère, avec une impression de ne pas être traitées comme un être humain. Certains parlent même de nourriture pour chien ou de nourriture que même leur chien ne voudrait pas avaler. Et ça, ça nous dit quelque chose de la façon dont on se sent traité lorsque la nourriture est immangeable.
Oui, et d'ailleurs, de quoi parle-t-on exactement quand on parle de nourriture décente?
Ah, that's a very interesting question because
c'est une question vraiment intéressante. Quand on commence à étudier ce sujet, vous savez, vous vous dites un bon repas, c'est forcément un repas sain. Et en fait, pour la plupart des détenus, un bon repas, c'est avant tout un repas qu'ils peuvent choisir. Un repas qui ressemble à ce qu'ils peuvent manger à l'extérieur. Donc, pas nécessairement un repas super healthy. Donc, c'est la notion de choix qui prime. Choisir ce qu'ils veulent manger et quel jour ils veulent le manger. Ça, c'est un bon repas. Mais évidemment, un tel choix serait très difficile à mettre en place. Surtout dans une grande prison avec une seule cuisine centrale qui doit préparer des repas pour tous les prisonniers. Dans ce contexte, prendre en compte les préférences de chacun, ça n'est pas la priorité. Il y a aussi un autre critère qui compte aux yeux des prisonniers, c'est la propreté. Ils souhaitent bien sûr que les repas soient préparés dans de bonnes conditions d'hygiène, que le personnel porte des gants, un tablier. Et puis, pour d'autres, une nourriture bonne pour la santé, ce n'est pas le plus important. Ce qui compte le plus, c'est la nourriture réconfortante. Parce que manger un repas généreux et savoureux, c'est une petite pause dans la dureté de la vie carcérale.
Est-ce que vous avez des exemples de plats dont les prisonniers raffolent en particulier?
En Belgique, c'est les fries. Et c'est très interesting because we see that the day
en Belgique, ce sont clairement les frites. Et c'est intéressant parce que le jour où la prison sert des frites, eh bien, c'est vraiment un moment que les prisonniers attendent avec impatience. C'est un plaisir rare en prison d'avoir des repas comme ça.
Tasty food. I have a funny anecdote about that.
J'ai une anecdote rigolote à ce sujet. Il y a quelques années, la Belgique a loué une prison aux Pays-Bas parce que notre population carcérale était trop élevée et qu'il n'y avait plus de place dans nos prisons. Sauf que le système alimentaire de cette prison était géré par un service néerlandais, ce qui veut dire qu'un traiteur externe à la prison ramenait des produits surgelés déjà préparés. Et c'est devenu un problème énorme pour les détenus parce que des repas surgelés, ça veut dire jamais de frites fraîches. Cette affaire est même allée jusqu'au Parlement, où les responsables politiques ont dû discuter du fait qu'on louait des prisons à l'étranger dans lesquelles on ne servait pas de frites. Voilà, pour vous montrer à quel point c'est important. Quand on perd déjà beaucoup de choses de son quotidien, manger des choses qu'on aime comme des frites avec de la mayonnaise, c'est important.
Et que pensez-vous des ateliers de cuisine ? Est-ce que ce genre d'activité facilite la vie en prison en matière d'entraide et de solidarité?
Oui, absolument. Parmi les prisons que nous avons étudiées, il y en avait une qui ne disposait pas de cafétéria centrale. Cela veut dire que les prisonniers ne mangent pas de repas chauds préparés par la prison, mais ils reçoivent de l'argent pour cuisiner eux-mêmes. C'est un petit montant, mais c'est assez pour acheter des ingrédients à préparer par soi-même, parfois avec beaucoup de créativité. Dans cette prison, les prisonniers forment des groupes de cuisine. Soit ils se réunissent entre personnes partageant les mêmes goûts, soit ils se mettent dans un groupe avec une personne qui aime cuisiner pour tout le monde, puisqu'on peut aussi ne pas aimer faire à manger. Et selon le jour de la semaine, on a observé que les repas préparés pouvaient aussi être des rendez-vous. Par exemple, certains groupes de cuisine ont l'habitude de préparer un couscous le vendredi, parce qu'après la prière, ils se rassemblent et aiment manger ensemble. D'autres groupes aiment cuisiner des pains de viande chaque dimanche, qui fait vraiment office de petite célébration dans cet environnement plutôt morne. Manger et cuisiner ensemble, ça contraste vraiment avec l'environnement très dur de la prison.
Dull environment, so it really contrasted, especially the cooking and eating together, with the harsh prison environment.
C'est hyper intéressant. C'est un moyen de recréer des habitudes de l'extérieur et de partager de bons moments ensemble. En gros.
Yes, indeed.
Oui, absolument. Et parfois, c'est juste parce qu'il y a des personnes que vous aimez bien, parce que vous avez les mêmes goûts et les mêmes habitudes culinaires.
In that sense. And it was also very interesting.
Mais c'est aussi intéressant de voir que parfois les détenus sortent de leur propre groupe et vont voir d'autres personnes pour partager leur repas. Manger ensemble, c'est vraiment une activité sociale qui lie les gens les uns avec les autres d'une façon constructive et positive.
Et est-ce que vous avez également assisté à des échanges de nourriture ?
Oui, souvent, à vrai dire. Par exemple, entre les fameux groupes de cuisine, il y en a parfois certains qui vont donner un cours aux autres pour leur montrer comment préparer un plat. Beaucoup de détenus m'ont confié que lorsqu'ils sont arrivés en détention, ils ne savaient même pas cuire un œuf. Ils savent à présent suivre de super recettes. Il y a donc vraiment des leçons informelles qui s'échangent entre ceux qui ont les compétences culinaires pour préparer les repas et les autres qui veulent progresser. C'est vraiment une activité où l'apprentissage est central.
Est-ce que beaucoup de personnes cuisinent dans leurs cellules ?
Dans certaines prisons, vous pouvez acheter un micro-ondes ou un four, mais c'est souvent compliqué. Et il y a certaines prisons où l'électricité n'est pas suffisante pour les autoriser. Et c'est là que c'est intéressant de voir combien les gens sont créatifs. J'ai des exemples de prisonniers qui parviennent à cuisiner sans micro-ondes et sans four. C'est incroyable. Certains cuisinent avec des boîtes de conserve de poisson dans lesquelles ils mettent de l'huile. Et avec du papier toilette, ils font ensuite un petit feu sur lequel ils cuisinent. Ce sont vraiment des façons incroyables de cuisiner et de créer des ustensiles de cuisine. C'est très intéressant.
Alors, j'ai entendu parler de punition de nourriture aux États-Unis, comme par exemple le Nutrilof. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est exactement et est-ce qu'on peut trouver des punitions alimentaires similaires en Europe, par exemple?
In Europe, officially, not.
Eh bien, en Europe, officiellement, non. Aux États-Unis, ça peut être vu comme une forme de punition, en effet, parce que le Nutrilof, comme ils l'appellent, est une mixture fade, un mélange de plusieurs ingrédients dont on ne distingue même plus l'apparence initiale. En Belgique et en Europe, plus généralement, on voit que les directives carcérales indiquent que la nourriture doit être saine et respecter une certaine réglementation. Donc, il n'est pas autorisé ici d'utiliser la nourriture comme une forme de punition. Mais évidemment, ce qu'on observe en réalité, c'est que parfois, les détenus perçoivent la nourriture qui leur est servie comme une punition, parce qu'elle n'est pas toujours agréable à manger et pour d'autres raisons. Ils peuvent donc toujours percevoir le repas comme une forme de punition, mais ça n'a rien d'une punition officielle.
Mais c'est légal aux États-Unis.
Oui, ils ont des directives qui indiquent que ce n'est pas recommandé d'utiliser la nourriture comme punition, mais il y a des différences de juridiction selon les États.
Et en parlant de différences, comment on pourrait décrire les différences entre les prisons en Europe ? Est-ce qu'il y en a beaucoup ?
Oui, il y a toujours beaucoup de différences entre les pays. On regarde souvent les pays nordiques comme la Norvège ou le Danemark comme progressistes. Mais les personnes qui y vivent sont aussi très critiques vis-à-vis de leur système. Donc on ne peut pas dire qu'ils aient des paradis carcéraux. Ils font face, eux aussi, à beaucoup de difficultés, mais en général, on regarde les pays scandinaves comme capables de développer un système qui semble plus humain sous certains aspects.
Et comment ça se passe en Belgique ?
Eh bien, en Belgique, les repas sont préparés dans la cuisine de la prison centrale. Les prisonniers seuls, en groupe, ou le personnel de la prison prépare les repas et les distribue. Puis généralement, les détenus mangent seuls dans leur cellule.
Est-ce que c'est cher de cantiner ?
Oui, et c'est vraiment problématique. Les commerçants qui livrent la nourriture demandent toujours un peu plus d'argent pour se faire une marge. Mais là-dessus, la prison demande aussi un peu plus d'argent, qu'elle utilise ensuite pour organiser les activités dans la prison. À l'arrivée, les détenus paient donc assez cher les produits. Et bien sûr, ça crée beaucoup de frustration, parce que les salaires en prison sont bas. Quand vous travaillez en prison, le montant que vous gagnez n'est pas énorme comparé à l'extérieur. Ça crée de la frustration quand vous gagnez si peu et que vous devez payer si cher votre nourriture.
Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de salaires de base et de prix aussi de produits de base comme des pâtes par exemple ?
Les salaires tournent autour de 150 euros par mois. Ça dépend bien sûr du travail que vous faites, mais en général, c'est quelque chose de cet ordre-là. 375 grammes de ratatouille coûtent 2,56 euros. Des nouilles au poulet, 1,63 euros. Et encore, j'ai sous les yeux les prix de 2013, donc ça a encore sûrement augmenté. 500 grammes de spaghetti, par exemple, coûtent 1,25€.
Spaghetti 500 grammes, 1,25€.
Et est-ce que si plusieurs prisonniers veulent un produit, ils peuvent manifester leur envie de le voir inscrit sur la liste de la cantine?
Usually not.
Généralement, non. S'il n'est pas déjà inscrit sur la liste de la cantine, c'est a priori difficile de se procurer un produit. Mais c'est intéressant parce que parfois, lorsqu'un détenu est transféré dans une autre prison pour une semaine ou deux et qu'il sait qu'il va revenir dans sa prison d'origine, il regarde le catalogue de la cantine et note les produits que cette prison a et dont l'autre ne dispose pas. Ensuite, il va en acheter plusieurs pour faire du stock et ainsi l'utiliser comme monnaie d'échange dans sa prison d'origine.
Alors voilà, on l'a vu, cuisiner et bien manger, c'est une activité importante pour garder un esprit sain dans un corps sain. Et il y a un véritable enjeu sociétal à bien traiter nos prisonniers. Déjà parce que la plupart du temps, l'incarcération est supposée préparer à une réinsertion dans la société. Ensuite, parce que tout le monde mérite de vivre dignement. À ce propos, il y a quelques années, le ministère de l'Agriculture avait mis en place un programme dédié à l'amélioration de l'offre alimentaire en milieu carcéral. L'objectif était de favoriser les échanges de pratiques entre cuisiniers des différents établissements pour améliorer la prestation de restauration, mais aussi utiliser l'alimentation comme aide à la réinsertion professionnelle en développant les formations aux métiers de bouche. Dans certaines prisons, comme par exemple il y a quelques années au centre pénitentiaire des Baumettes, des rencontres sont organisées entre prisonniers et chefs. On vous en parlera plus en détail dans La Brève d'Émilie qui sortira ce vendredi. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Laura Cuissard et les coups de main de Clara Maté. Montage par Ashley Tola, mixage par Thomas Decourt, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux.